Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans cette émission qui s'invite chez vous, au cœur de vos régions. C'est Une Heure en France qui commence et aujourd'hui cap sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Île-de-France et la Nouvelle-Aquitaine. Et plus précisément dans la région culturelle du Médoc où l'on fait renaître depuis peu une institution gastronomique, l'huître du Médoc. Mais d'abord le point sur l'actualité de ce vendredi. Bonjour Mélodie Pépin.
Bonjour Ségolène Aluni, bonjour à tous.
Nous allons décortiquer les annonces du président dans ce journal.
A-t-il répondu aux attentes des Français? Si vous n'avez pas suivi sa conférence de presse hier, trois choses à retenir.
Des baisses d'impôts.
Mais pour qui et quand? On va voir ça.
Des sous pour les retraités.
Mais combien? Est-ce suffisant? Réponse à suivre.
Et des services publics regroupés.
Une maison par canton, mais avec quel argent? Les maires s'interrogent. Des mesures qui n'ont pas calmé les gilets jaunes, prêts à se mobiliser demain.
Nous ferons un point aussi sur les chiffres du chômage.
25 000 chômeurs de moins au premier trimestre. La baisse continue et nous retournerons réviser nos formules chimiques avec Valérie Barbe, le tableau des éléments périodiques. Fête ses 150 ans.
Merci de nous écouter. Bienvenue dans Une Heure en France. Vous êtes sur France Bleu et nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
Une Heure en France. Ségolène Aluni, Mélodie Pépin sur France Bleu.
Que faisiez-vous hier soir à 18h? Tenez, étiez-vous devant le poste pour regarder le président faire ses annonces? Où avez-vous boudé le rendez-vous?
Il semble bien que beaucoup avaient mieux à faire puisque seulement 7 millions de téléspectateurs ont suivi la conférence de presse sur TF1 et France 2 contre 23 millions en décembre dernier lors de l'allocution présidentielle.
7 millions de Français devant le poste donc hier pour écouter le président. Et qu'en avez-vous retenu?
On va détailler, décrypter quelques annonces ensemble. On commence par celle qui est la plus symbolique, la baisse de l'impôt sur le revenu. Emmanuel Macron annonce 5 milliards d'euros de baisse d'impôts. Pour qui? Comment? Quand? Frédéric Dorel, à vous de nous répondre.
Oui, alors la première question, quand? C'est la plus facile. Janvier prochain. En janvier 2020, 15 millions de foyers fiscaux verront leurs impôts baisser. Alors, c'est là que ça se complique. 15 millions de foyers fiscaux, on ne sait pas qui est concerné exactement.
Mais on a quelques indices.
Oui, le gouvernement cible les classes moyennes. À Bercy, on se base sur la deuxième tranche d'imposition, c'est-à-dire les Français qui déclarent entre 10 000 et 30 000 euros par an. Avant, on n'est pas imposable. Eh bien, cette entrée dans l'impôt, elle se fait aujourd'hui à 14%. Elle passerait à 5%. Et un deuxième palier à 10% interviendrait ensuite. La question, c'est à partir de quel revenu annuel on place ce deuxième palier? Là-dessus, on n'a pas de réponse pour l'instant.
Frédéric Dorel, et on ne sait pas non plus exactement comment financer ces baisses d'impôts, mais chaque euro de baisse d'impôts sera financé par 1 euro de baisse de dépenses publiques. C'est ce qu'affirme le ministre de l'Économie.
Voilà donc un premier geste pour les classes moyennes, mais le président a bien dit aussi qu'il faudra faire des efforts et travailler plus longtemps.
Autre catégorie ciblée, les retraités. Le président leur promet un coup de pouce avec d'une part une retraite minimale à 1000 euros, mais il faut une carrière complète, et d'autre part des pensions indexées de nouveau sur l'inflation. Alors ça concernera d'abord les petites retraites, moins de 2000 euros à partir de l'an prochain, puis toutes à partir de 2021. Mais tout ça, c'est bien peu pour les principaux concernés, Farida Noir.
Il ne reste à la fin du mois que 300 euros à Didier pour vivre. À la retraite depuis bientôt 6 ans, cet ancien aide-soignant touche moins de 1200 euros de pension et fait donc partie de ceux dont la retraite sera indexée sur le coût de la vie dès le 1er janvier prochain. Mais l'annonce d'Emmanuel Macron le laisse de marbre.
Alors en fait, il va nous redonner un peu ce qu'il a pris. Je te redonne, je te reprendrai. On a travaillé toute sa vie et ce qui est malheureux.
Hervé, son ami venu le rejoindre dans ce quartier du nord-est parisien, hausse aussi les épaules. Pour ce retraité de 71 ans, cette indexation ne remplira pas les portefeuilles.
Je connais beaucoup de personnes qui touchent 800 euros par mois. Bon, ils vont quoi? Avec les indexations, ils vont toucher quoi? 810, 820, 830 euros, c'est tout.
Et l'annonce concernant une retraite minimale de 1000 euros pour tous ceux qui ont une carrière complète, là aussi, ce n'est pas suffisant.
Moins de 1200 euros, vous ne pouvez pas vivre décemment en France, c'est impossible.
Dominique, intermittent du spectacle à la retraite, espérait entendre d'autres mesures.
Il aurait dû annoncer la baisse de la retraite à 60 ans. Il aurait dû effectivement plafonner les retraites à un minimum vital qui permettent aux gens de payer leur loyer et même d'aider leurs enfants qui sont aujourd'hui dans le besoin. Et c'est là-dessus qu'ils devraient agir.
Emmanuel Macron a également affirmé que l'âge de départ à la retraite sera maintenu à 62 ans.
Farida Noir, 62 ans, âge minimal, mais là encore le président ne renonce pas à l'idée de faire travailler les Français plus longtemps, puisque pour toucher la retraite à taux plein, il faudra partir plus tard, la durée de cotisation pourrait être allongée.
Et puis autre sujet qui était très attendu par les Français, la disparition des services publics dans les petites petites villes, les campagnes. Et là encore, le président fait un geste, Mélodie.
Emmanuel Macron propose d'installer dans chaque canton une maison qui regrouperait tous les services publics, comme la CAF, Pôle emploi, le Trésor public, pour simplifier, dit-il, la vie des Français. Une mesure bien faible, lui répond le directeur de l'association des maires ruraux et qui soulève beaucoup d'interrogations. Écoutez Cédric Zabo.
C'est une réponse qui n'est pas nouvelle puisqu'il y a déjà aujourd'hui 1200 maisons de services publics, mais plus encore, il y a 35 900 maisons de services publics de proximité qui s'appellent la mairie. Il y a aujourd'hui des cantons où il y a plusieurs maisons de services publics, c'est-à-dire que certaines seront fermées pour n'en avoir qu'une. Et ensuite, nous connaissons aujourd'hui les difficultés de ces 1200 maisons de services publics qui peinent justement à attirer les opérateurs que vous avez cités, qui aujourd'hui rechignent de plus en plus, par faute de moyens, par définition, à venir réellement faire des permanences dans ces maisons. Et puis l'autre sujet clé, c'est sur la question des enjeux sur les mobilités. Quand on est à 2 heures d'une maison de service public, qui nous emmène? Comment on y va? Avec quels moyens? Il y a un grand flou aussi sur le financement.
Où sont les moyens? C'est la grande question sans réponse de toutes ces mesures annoncées. Des mesures qui devraient coûter entre 8 et 10 milliards d'euros à l'État, selon les économistes.
Dernière question, est-ce que ces mesures vont mettre un terme au mouvement des Gilets jaunes?
Non, les Gilets jaunes seront dans la rue de nouveau demain, insatisfaits de ces annonces. Même réponse du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.
Oh, je vais être très franc, non. Non, parce que de toute façon, depuis quelques semaines, on voit bien que ceux qui manifestent le samedi matin ne seront pas satisfaits. C'était écrit avant même que le président s'exprime. Mais pour une raison simple, ils n'ont plus de revendications. Le samedi, les 30 000 gilets jaunes qui manifestent en France, 30 000, ça n'est pas le peuple, ça n'est pas la France. Ces 30 000 n'ont plus de revendications, si ce n'est la disparition du président de la République, intuitu personné, parce que c'est un de leurs objectifs, ou du ministre de l'Intérieur de temps en temps. Il n'y a plus de revendications, il y a une radicalité. Et on a une forme de rituel du samedi d'empêcher, de nuire et de provoquer les forces de sécurité.
Christophe Castaner, demain ce sera donc la 24e journée de mobilisation pour les Gilets jaunes.
Et dans ce contexte, Mélodie, des chiffres qui tombent à pic.
Les chiffres du chômage publiés par Pôle emploi ce midi. Hier, Emmanuel Macron a promis le plein emploi d'ici 6 ans. Eh bien, bonne nouvelle, le chômage baisse encore au premier trimestre, Sarah Lemoine.
Eh oui, moins 0,7%, ça veut dire que 24 200 chômeurs sont sortis de la catégorie A, celle des gens qui n'ont pas du tout de travail. Avec cette légère baisse, le nombre de demandeurs d'emploi passe pour la première fois sous la barre symbolique des 4 millions de personnes en France métropolitaine sur les 3 premiers mois de l'année, toujours dans cette catégorie. Une baisse qui profite aux hommes, aux femmes et aux seniors, mais pas aux chômeurs de moins de 25 ans, dont le nombre reste stable, et aux chômeurs de longue durée, dont le nombre augmente. Alors si le nombre de chômeurs sans aucun boulot baisse de 0,7%, il augmente en revanche pour ceux qui travaillent à mi-temps ou quelques heures dans le mois, ce qui traduit une hausse de la précarité. Hier, Emmanuel Macron a confirmé son objectif de ramener le taux de chômage à 7% en 2022 contre 8,5% actuellement, mais seulement si le rythme des réformes est maintenu, a-t-il précisé. Le président, qui vous le disiez, est même allé plus loin, promettant le plein emploi pour 2025.
Sarah Lemoine.
Vous écoutez France Bleu, bon appétit à tous, il est 13h08. La suite de ce journal nous emmène de retour sur les bancs de l'école, Mélodie, pour se triturer le cerveau et apprendre le fameux tableau périodique des éléments qui fête ses 150 ans.
Il y a du boulot.
Oui, c'est vrai. Nous irons aussi en Arabie Saoudite où se déroulera le prochain Dakar. Pour poser une question aux pilotes, le sport doit-il se préoccuper des droits de l'homme? Et tout de suite, direction l'Alsace, où la grêle a fait quelques dégâts hier.
Dans les vignobles, surtout 5 à 10% des parcelles touchées. Alors ça reste peu par rapport à l'an dernier, mais les vignerons craignent de nouvelles intempéries dans les semaines qui viennent, Guillaume Schum.
Chez Édouard Faller, 5% de ses 17 hectares de vignes ont été touchés par la grêle. Les bourgeons de cette parcelle sont très peu nombreux après le passage des intempéries. Le vigneron ne fait que constater les dégâts.
La conséquence, elle est claire, c'est que là, c'est zéro récolte pour ces bourgeons. Donc il reste les quelques bourgeons qui ont pu supporter. Donc ça, c'est perdu pour cette année. L'année prochaine, évidemment, on aura du bois, on retaille et c'est reparti.
Les aléas climatiques, les vignerons connaissent bien en Alsace. Il faut s'y habituer et y faire face. Chez Édouard Faller, la pluie de grêle a duré une bonne vingtaine de minutes.
C'est toujours dur pour les viticulteurs. Et pour nous de supporter ça, on est stressé dès qu'au moindre orage. Et bon, on fait avec depuis des générations. C'est comme ça, c'est la nature.
Ce qui a surpris Didier Peterman, le président du CIVA, le conseil Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace, c'est que la grêle n'a pas été localisée à un seul secteur. Elle s'est largement étendue sur le vignoble.
Phénomène assez rare parce que cet orage de grêle a touché du nord de l'Alsace jusque Iggisheim. Ça a été touché. Donc c'est très rare. D'habitude, c'est localisé sur un secteur donné. Là, ça a effectivement touché un peu tout le vignoble alsacien.
Pour l'instant, on ne sait pas si les dégâts de la grêle auront un impact sur les vendanges et la récolte de cette année. On en saura plus dans les jours qui viennent.
Guillaume Schum pour France Bleu, de la grêle en Alsace. Des inondations dans la Loire aussi hier. 5 cm d'eau tombée dans les locaux techniques de l'hôpital de Bellevue à Saint-Étienne. Mais pas de conséquences sur le bon fonctionnement de l'hôpital.
L'hôpital, Mélodie, où il ne faut pas fumer, on le rappelle.
À Strasbourg, une patiente s'est endormie dans la douche avec une cigarette à la main à la clinique de Sainte-Anne, ce qui a provoqué un départ de feu qui a pu être rapidement être éteint, mais deux personnes ont été légèrement blessées. Et puis on l'a appris ce midi, le président du Secours Populaire, Julien Lauprêtre, est mort après une chute. Il avait 93 ans. Il dirigeait l'association depuis plus de 60 ans. Allez, c'est l'heure de prendre vos cahiers et vos crayons. Ah. C'est parti pour un cours de chimie. La chimie, Ségolène, ça vous rappelle quoi?
Déjà l'horreur, parce que j'aimais pas ces cours, mais surtout les tubes à essai, les expériences qui foirent, les formules chimiques aussi.
Oui, on l'a tous vu affiché en classe, ce grand tableau avec toutes les formules des éléments. Un vrai cauchemar pour tout retenir.
Oui, et d'ailleurs, on a presque tout oublié, hein, faut bien l'avouer.
Oui. Mais c'est sans compter sans Valérie Barbe qui veut nous faire réviser aujourd'hui. C'est vraiment nécessaire?
Mais absolument, Mélodie. Hein. Ah. Surtout que notre héros du jour, vous allez être contente, hein, c'est justement votre chouchou, le fameux tableau périodique des éléments.
Alors, il y a quand même des formules qui nous sont restées. On connaît tous la formule de l'eau.
H2O.
Bravo ouais. Les filles, exact. Et comme ce tableau a 150 ans cette année, eh bien les pros de la chimie nous ont fait un cadeau. Ils nous ont mitonné une version internet de ce fameux tableau. Ça s'appelle l'élémentarium.
Belle initiative, mais quand on n'est pas des experts, c'est quoi l'intérêt?
Eh bien de comprendre à quoi servent tous ces métaux, ces gaz et autres terres rares dans notre vie de tous les jours.
Vous avez un exemple?
Alors si je vous dis rhénium.
Je sèche.
Voilà. Sauf qu'en réalité, ben vous en avez chez vous et nos auditeurs aussi.
Ah bon?
Car le rhénium, eh bien ça sert à faire les résistances des fours électriques. Et ouais. Autre exemple, si je vous dis argon.
Je sais pas, ça me fait penser à une herbe aromatique. Ça doit pas être ça.
Ben, franchement, gagné. Hein. Bon, je sais que c'est l'heure de manger, mais bon. Mais ça aussi, en fait, vous en avez plein la maison. Car l'argon, c'est quoi? C'est l'un des gaz qu'on trouve dans nos ampoules basse conso.
Bien utile. Tout ça, un autre exemple, peut-être plus glamour?
Oui, alors le sélénium, je dis comme ça, c'est pas très glam.
Non.
C'est d'abord le meilleur ami des photocopieuses et des imprimantes,
ouais.
Mais aussi le sauveur de nos cheveux, les filles.
Ah.
Et ouais, car c'est un super anti-pelliculaire. Alors, voyez quand même que la chimie, ça peut être passionnant et même amusant. En plus, derrière un écran, c'est quand même moins dangereux que le jeu du petit chimiste si cher à notre enfance.
Oui, évitons de tout faire exploser à la maison. Valérie Barbe, où est-ce qu'on peut trouver cet élémentarium?
Alors sur internet, et le nom du site, c'est l'élémentarium tout attaché.
.fr. Bon, bah on ira voir.
Ben voilà, pour ceux qui sont en vacances, révision. Allez, direction l'Arabie Saoudite, où les pilotes les plus emblématiques du rallye Dakar ont été reçus en grande pompe hier.
Le pays va accueillir la course pour la première fois. Un nouveau décor bienvenu pour les pilotes après 11 ans d'Amérique du Sud. Mais faut-il organiser un rallye dans un pays qui torture, lapide, métamorphe ses opposants? Guillaume Batin leur a posé la question.
La cérémonie grandiose organisée en plein désert donne le ton. Les officiels se succèdent à la tribune. Deux heures après, dans une salle surclimatisée, les pilotes n'échappent pas aux questions sur les droits de l'homme, comme Stéphane Peter Ancel qui a tout connu, l'Afrique et l'Amérique du Sud.
De toute façon, les pilotes, on est tous des très grands égoïstes. On pense plus à nous, à notre propre plaisir, qu'au reste, en fait. Et je pense qu'il faut rester comme ça, autrement ça peut nous remuer la tête.
Dans son discours, le prince Khalid bin Sultan Abdullah Al Faisal, président de la Fédération saoudienne de sport auto, parle du royaume du bien et du Dakar qui, grâce à Dieu, montrera l'Arabie saoudite sous son vrai visage.
Pour nous aussi, les droits de l'homme, c'est important, mais on ne voit pas les choses de la même manière. Je pensais que les Français étaient des gens mal polis. Non, vous êtes sympathiques. Je pensais qu'en allant aux États-Unis, je prendrais une balle dans la tête en pleine rue et je suis toujours vivant. Vous savez, le pire fait toujours la une des infos. C'est pour cela qu'on vous invite. On ne vous dit pas ce que vous devez écrire et nous sommes contents d'en discuter.
Discuter de la séance de lapidation en public du vendredi, par exemple. Une information qui, pourtant, ne fera pas la une de la presse saoudienne.
Guillaume Batin, pour France Bleu, le Dakar 2020 se déroulera donc en Arabie Saoudite du 5 au 17 janvier.
Et puis tous ceux qui souhaitent rendre un dernier hommage à Dick Rivers, ce seront les bienvenus à ces obsèques.
Des obsèques prévues le 2 mai prochain à Paris, à l'église Saint-Pierre de Montmartre. Le rocker est mort mercredi à 74 ans.
C'est pas sérieux, mon amour, de s'embrasser comme ça dans la rue, n'importe où. C'est pas sérieux, mais c'est bon, mon amour, quand ta bouche affamée se promène sur mon cou. Et moi, si timide,
timide,
je me sens solide,
solide.
Sans tricher ce grand bonheur qu'on affiche sans pudeur, c'est pas sérieux, mon amour, oui, mais le plus souvent quand on fait dans la vie.
Je suis fan de cette musique, ça me transporte absolument. C'est pas sérieux, c'est Dick Rivers, Mélodie.
Et après le rock'n'roll, un peu de piano dans un instant. Un piano un peu spécial car il se plie en trois, le seul au monde. Et c'est très sérieux, on en parle avec son inventeur après la météo.
FranceBleu.fr. Tout France Bleu. Quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.